Zisa Domnul, nimeni nu s-a suit în cer, fără numai cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuia să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume, ca să osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.
Lectură du Saint Évangile selon Saint Jean. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, nul n'est monté au ciel, hormis celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel. Et comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Et du Saint-Esprit. Amen. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et tout homme qui croit en lui, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà comment l'évangéliste Jean nous met devant aujourd'hui une chose très importante qui doit marquer notre vision sur notre vie et sur la vie du monde. Je répète, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comme je vous ai dit il y a 2 semaines, 3 semaines, je voudrais recommencer un peu, relire avec vous la liturgie, voir un peu comment est-ce que la liturgie se déroule. Et je vous ai dit, voilà, tout d'abord, le prêtre, il invoque l'Esprit Saint par la prière « Roi céleste, défenseur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent ». Après, il donne la grande bénédiction pour commencer la liturgie. Et tout de suite, il y a une série de demandes qu'on appelle la grande ecténie. On demande toutes les choses possibles pour le salut de nos âmes et pour la vie qu'on mène dans ce monde. Voilà. Je voudrais insister sur un petit demande de la grande Ecténie. Vous la trouvez à la page 21, où on demande pour être préservé de toute tribulation, de toute colère, violence, de tout danger et de toute fatalité. Secours-nous, sauve-nous, fais-nous miséricorde et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Ça, en connexion avec l'évangile d'aujourd'hui, où on dit « car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui ». Donc on peut dire que c'est une vision optimiste sur les choses, que Dieu ne veut pas condamner le monde. Mais pourtant, la réalité de la souffrance, c'est une réalité qui est assez présente dans ce monde. Et voilà, on est obligé chaque liturgie de prier pour être préservé de toute tribulation, de toute colère, de tout danger et de toute fatalité. Secours-nous, sauve-nous, fais-nous miséricorde et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Voilà donc, d'un côté, une vision optimiste sur le monde, sur notre vie dans le monde, c'est-à-dire le Christ, il est venu pour sauver le monde dans lequel on vit. Et en même temps, ce monde qui est pénétré par la grâce de Dieu nous met toujours encore la souffrance devant nous. C'est un peu difficile de comprendre comment est-ce que cette grâce de Dieu qui pénètre le monde est compatible avec la souffrance qui est dans le monde. Pourquoi Dieu veut-il où il est d'accord que la souffrance existe encore dans ce monde? Bien sûr, il n'y a pas de réponse pour cette question, pour ces questions qu'on met toujours. Pourquoi, par exemple, un petit enfant, il meurt? Ou pourquoi il y a des gens qui encore n'ont pas de gros problèmes pour mener leur vie? Pourquoi il y a encore des guerres? Pourquoi il y a encore beaucoup de malheurs dans ce monde? Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Mais si on veut entrer un peu dans l'univers de la pensée liturgique, si vous voulez, je crois que c'est une pédagogie que Dieu fait avec chacun d'entre nous, avec cette souffrance qui est dans le monde. Tout d'abord, ce n'est pas Dieu qui veut cette souffrance qui existe, parce que Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé, bien sûr. Donc on arrive à un constat qui ne nous donne pas beaucoup de patience. C'est qui est l'auteur de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qui se passe mal autour de nous? Et je crois que voilà, le principal auteur, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui provoque beaucoup de souffrance dans le monde. D'un côté, Dieu qui veut sauver le monde, et d'autre côté, la réalité de la souffrance, et cette réalité qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup faite, si vous voulez, par l'action de l'homme. Quand on aborde toujours la réalité de la souffrance, il faut toujours nous souvenir de cette phrase de l'Évangile. Car Dieu ne veut pas condamner le monde, mais qu'il veut sauver le monde. Il y a notre prière dans la liturgie où on dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. D'un côté, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, et d'autre côté, la réalité de ceux qui ne sont pas sauvés. Parce que c'est une réalité. L'enfer existe, et il y a des gens qui ne sont pas sauvés. C'est à cause de qui? C'est à cause de Dieu. On peut accuser Dieu que les gens se sont écartés assez qu'ils refusent l'action de Dieu dans leur vie. On peut considérer que Dieu s'est coupable pour ça. À mon avis, je crois que non. Je crois que beaucoup de mal, beaucoup de choses mauvaises qui existent dans le monde sont par l'action de l'homme et surtout par son égoïsme, par son incapacité de répondre avec le bien à ceux qui lui font du mal. Donc, parce qu'on constate cette réalité de la souffrance dans le monde, on vient dans l'Église et on demande d'être préservé de toute tribulation, de toute colère, de tout danger qui peut intervenir dans notre vie et de toute fatalité. Et pourtant, si on sort de l'Église, les dangers, les violences, les tribulations et toutes les choses mauvaises ne s'arrêtent pas. Et même nous-mêmes, les chrétiens, qu'on vient chaque dimanche à l'Église, on est assautés, si vous voulez, par des malheurs, par des souffrances, par des choses qui ne nous font pas du bien. C'est où la réponse? D'un côté, on vient chaque dimanche demander à Dieu de nous préserver de tout danger, et d'autre côté, toujours des maladies, des choses mauvaises qui interviennent dans nos vies. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je reviens à mon idée, peut-être penser que c'est une pédagogie de Dieu. Ce n'est pas un Dieu sadique qui veut maltraiter les hommes, mais c'est un Dieu qui veut que l'homme fait d'exercice dans sa foi. Parce que voilà, je vous donne un exemple qui est valable pour tout le monde. On vient prier à l'Église pour une chose. On vient une fois, on vient deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, cent fois. Et les choses ne s'accomplissent pas. On vient prier là 200 fois et les choses ne s'accomplissent pas. Et la 201 fois, on dit, ça suffit. Je ne viens plus à l'Église parce que ça suffit. Ça suffit, Dieu ne m'écoute pas. Je pense que peut-être il devrait encore un petit moment pour arriver à 202, pour que Dieu nous donne les choses qu'on attendait. Peut-être. C'est en pédagogie que Dieu met toujours, quand il y a des souffrances dans vos vies, pensez que Dieu ne veut pas la souffrance, et si cette souffrance existe dans vos vies, c'est que c'est pour une pédagogie, pour que vous arriviez à un but. Je ne sais pas quel. Ça dépend de chacun quel but peut avoir la souffrance dans vos vies. Mais c'est sûr que Dieu est d'accord avec la souffrance dans vos vies, avec cet but. Il a un but qu'il veut que nous arrivions. Voilà, un malade, quand il est sous le traitement, le médecin ne lui donne pas toujours des gâteaux, ça c'est clair. C'est la plus connue comparaison qu'on peut faire. Voilà, le Dieu, notre grand médecin, est un guérison, un guériseur. Et la guérisseur de nos âmes et de nos corps. Et parfois, peut-être, la souffrance a le rôle de nous guérir de quelque chose qu'on n'est pas conscient, je ne sais pas quoi. Une passion, un péché, une attitude qu'on peut se débarrasser d'elle. Et voilà, Dieu nous coince un peu. Mais pas dans une vision, dans une vision, je répète, sadique, sombre. Non, la souffrance est toujours pour transfigurer un peu l'homme, pour lui donner une autre perspective sur la vie. Et voilà, pour ça, peut-être que si on vient 200 fois à l'Église, on prie et on ne reçoit pas ce pour laquelle on prie. Voilà, je crois que ça peut être une réponse pour la silence de Dieu devant nos besoins. Devant nos besoins, peut-être qu'il faut exercer notre patience. Parce que si vous lisez les pères de l'Église, ils disent que la patience, c'est la plus grande vertu du monde. La patience. Essayez de déchiffrer un peu l'action de la grâce de Dieu dans le monde. Déchiffrer cette action. Qu'est-ce qu'il veut Dieu avec ce monde, avec nous-mêmes? Pourquoi cette réalité de souffrance qui est assez dure dans nos vies? Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire, Dieu veut nous détruire, ou parce que Dieu veut nous faire du bien, mais par une méthode qui est plus adaptée à notre personnalité. Voilà pourquoi est-ce qu'on baptise les enfants. Parce que les enfants n'ont pas de rejet à la grâce de Dieu. Ils ne s'opposent pas à la grâce de Dieu. Nous, quand on veut recevoir Dieu, on commence tout de suite par une manière très intellectuelle de mettre en catégorie, de voir, de chercher. On n'accepte pas. Un enfant, par contre, un enfant, quand il vient à l'église, quand il est baptisé ou quand il vient à l'église pour recevoir l'Eucharistie, pour ça, est-ce qu'on ne confesse pas les enfants? Parce que leur âme est plus ouverte, si vous voulez, à la grâce de Dieu. Voilà, pour ça, il faut devenir un peu enfant dans nos âmes. Il faut accepter un peu la souffrance dans notre vie d'une manière qui nous parle de la résurrection, si vous voulez. Oui, parce que c'est difficile à avoir une maladie, un cancer ou je ne sais pas quoi. Mais en même temps, demandez-vous toujours pourquoi est-ce que Dieu nous a amenés dans cet état. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous avec cette maladie qu'on a, avec ces problèmes, Il veut le salut de nos âmes. Et je vous dis encore une chose pour vous encourager dans vos souffrances. Les pères de l'Église, ils disent, quand Dieu te donne des souffrances, il faut te réjouir parce que Dieu, il te cherche. Il est près de toi, il vient près de toi, il veut travailler avec toi, il veut t'exercer. Quand tu es paisible, quand tu n'as rien dans ta vie de vague, peut-être que c'est un problème, peut-être oui, peut-être pas, mais dans la plupart des cas, il y a un problème quand Dieu ne nous visite pas, même dans des souffrances. Je ne dis pas que la souffrance est la seule chose, c'est la seule voie d'être sauvé, bien sûr. Il ne faut pas chercher la souffrance à tout prix, mais si la souffrance vient dans vos vies, essayez de penser dans cette perspective, et je fais un petit résumé, que Dieu veut que le monde soit sauvé, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, même si tous les hommes ne seront pas sauvés, et que la souffrance dans nos vies a un rôle pédagogique pour nous libérer un peu de péché et de passion. Parfois, on ne parle pas, on a oublié d'avoir dans nos discours un discours sur le péché et sur les passions. Mais c'est très important. Pourquoi une passion, c'est une passion dans le mauvais sens du terme, une passion pécheresse, si vous voulez. Pourquoi la passion, c'est assez grave? Parce qu'elle nous écarte de Dieu. C'est la passion qui nous fait introduire dans un certain univers, je ne sais pas, je n'ai pas des exemples maintenant, mais imaginez-vous un péché qui devient petit à petit, par la répétition de ce péché, il devient passion. Donc on est des esclaves du péché. On donne toute notre vie au péché. Et voilà, petit à petit, on arrive dans la passion, et petit à petit, on s'écarte de Dieu. Voilà. Et peut-être que Dieu veut nous rapprocher de lui. Et parce que l'homme ne veut pas, il faut intervenir comme un médecin à peu près d'une manière un peu plus claire, plus carrée. Donc, le monde sauvé, tous les hommes sont sauvés et les souffrances qui est d'une manière pédagogique. Je m'arrête ici, je vous conseille de lire cet évangile d'aujourd'hui qui se trouve dans l'évangile qui a été écrit par Saint Jean, le chapitre 3. Le paragraphe de 13 jusqu'à 17, si vous avez une Bible chez vous. Et faites attention chaque fois quand vous venez à la liturgie, quand vous entendez cette demande pour être préservé de toute tribulation, de toute violence, de tout danger, de toute fatalité, pensez que Dieu ne va pas laisser sans réponse vos demandes. Même si vous allez demander beaucoup de temps, c'est sûr que Dieu va faire d'une certaine manière qu'il va vous donner qu'est-ce que vous demandez, mais pas tout de suite, pas tout de suite, parce que d'habitude quand on a une chose tout de suite, on ne sait pas le valoriser. Donc il faut lutter pour les choses. Et après vous allez voir que la grâce de Dieu viendra et que Dieu va vous donner beaucoup de choses, peut-être mille fois plus que vous avez demandé dans vos demandes. Que Dieu nous bénisse et que Dieu fait avec nous que nous puissions demander ce qui est essentiel dans nos vies. Ici, c'est un autre aspect qu'il faut discuter. Peut-être quand on demande à Dieu, on demande des choses qui ne sont pas essentielles pour notre vie. C'est un aspect ça qu'il faut envisager aussi. Peut-être qu'il y a une chose pas essentielle pour notre vie. Je ne sais pas, je veux je ne sais pas, il y a des demandes, des petites demandes qui sont un peu mesquines même, qui ne touchent pas le fond de nos problèmes. Et peut-être Dieu veut nous réveiller, de toucher le fond de notre problème, de demander ce qu'il faut pour nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse. Amen.